radio Autre Culture, bonjour, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous recevons Claude Boukobza, qui est psychanalyste, présidente de l'association Espace Analytique dans le 7e arrondissement rue de Bourgogne, cofondatrice et consultante à l'unité d'accueil mère-enfant du centre hospitalier de Saint-Denis, chargée de cours à l'université Paris 7, Denis Diderot, UFR Sciences Humaines Clinique. Bonjour.
Bonjour.
Et je reçois notre Annie nationale, Annie Hardin, psychanalyste,
oui,
qui va mener ce débat qui est particulièrement porté sur les relations avec les enfants, la psychanalyse et les enfants.
Bonjour, donc j'ai comme invité aujourd'hui Claude Boukobza qui s'occupe principalement, mais pas seulement je crois, de psychanalyse avec les enfants. Et je souhaitais savoir qu'est-ce que vous souhaitiez en apporter aujourd'hui, quelles en étaient les grandes lignes, qu'est-ce que la psychanalyse avec les enfants, qui s'adresse à des psychanalystes pour leurs enfants, un peu tout ce qui se passe autour de ce thème.
Écoutez, la psychanalyse d'enfants, comme on dit habituellement, on peut dire que c'est la psychanalyse. C'était une formule de Maud Manoni, qui était une grande psychanalyste d'enfants française. Alors, ça paraît une évidence, mais c'est vraiment une formule qui demande à être développée, hein, et en particulier un petit peu dans l'histoire de la psychanalyse d'enfants.
Comment ça a commencé, alors, la psychanalyse avec les enfants?
La date d'aujourd'hui est bien choisie, parce que ça fait environ 100 ans, ça fait pratiquement 100 ans que ça a commencé. Ça a commencé avec ce qu'on appelle l'analyse du petit Hans, hein, c'est-à-dire que Freud lui-même a découvert, et il a commencé à en parler en 1905, la sexualité infantile, ce qui a fait scandale à son époque, mais il l'a découvert à partir des cures d'adultes, de patients adultes, des adultes névrosés, comme il disait, et voilà, qui retrouvait dans l'analyse des souvenirs d'enfance. Et à ce moment-là, Freud l'a théorisé, il a publié un livre là-dessus, mais il a demandé à ses plus proches disciples de lui amener des observations d'enfants qui pourraient corroborer sa théorie. Et c'est là qu'un des disciples les plus proches de Freud, qui était le père de ce fameux petit Hans, qui s'appelait Max Krav, qui était un grand musicologue viennois, s'est mis d'abord à observer son enfant, à parler avec lui et à lui donner ce qu'on a pu appeler à l'époque une éducation psychanalytique, c'est-à-dire une éducation beaucoup plus libre, où on parlait de tout et où on acceptait les questions, bien sûr, et essentiellement sur la sexualité.
Donc ça a commencé avec éducation et psychanalyse, en quelque sorte.
Ça a commencé avec éducation et psychanalyse, tout à fait. On pourra revenir dessus si vous le voulez. Mais en fait, le père du petit Hans envoyait les récits de ses conversations avec son fils à Freud, qui bien sûr confirmait tout à fait les théories de Freud. D'accord. Très vite, ça a évolué, c'est-à-dire que c'est déclenché chez ce petit Hans ce qu'on appelle une phobie, c'est-à-dire une crainte, une peur du cheval. Alors aujourd'hui, ça ne serait pas très handicapant, mais à l'époque, les voitures étaient à cheval. Et tiré par des chevaux, et donc il ne pouvait plus sortir de chez lui, ne pouvait plus aller dans la rue. Et peu à peu, cette observation est devenue un traitement, un soin de l'enfant, un soin de cette phobie, faite par le père lui-même, mais qui correspondait avec Freud, et comme on dirait aujourd'hui, un petit peu sous la direction de Freud.
D'accord. Freud recevait l'enfant aussi ou...
Freud l'a reçu une fois. Il l'a reçu une fois pendant le cours de la thérapie avec le père, enfin faite par le père, pour lui communiquer une chose très essentielle, hein, c'est-à-dire il lui a dit, ben moi, Freud, j'ai toujours su, même avant que tu naissais, qu'un jour un petit Hans naîtrait, viendrait au monde et aimerait tellement sa maman qu'il aurait peur de son papa, enfin quelque chose d'équivalent. C'est c'est-à-dire qu'il lui a énoncé en quelque sorte la loi et de l'Oedipe et de l'interdit de l'inceste, loi qu'il avait lui-même, Freud, mis en lumière. Et le petit Hans, d'ailleurs, en sortant du bureau de Freud, a dit à son père, mais est-ce qu'il parle avec le bon Dieu, ce professeur, pour savoir toutes ces choses-là?
C'est ça, parce qu'il parlait de, avant la naissance, il était déjà dans le langage,
voilà,
ce petit Hans.
Absolument. Voilà donc comment ça a commencé. C'est une façon pas très orthodoxe de faire, bien sûr. Hein, mais peu à peu, la théorie psychanalytique elle-même se développant, on s'est posé la question de comment l'appliquer aux enfants. Non. Alors, est-ce qu'on pouvait l'appliquer? C'était une question d'application. Et la première psychanalyste d'enfants était Hermine von Hugelmuth, qui était une institutrice viennoise qui voulait aussi observer les enfants et qui allait faire des observations ou des traitements au domicile des parents, ce qui nous semble tout à fait incongru aujourd'hui. Mais bon, il fallait bien commencer. Et surtout, ouais, ce qu'on peut retenir de son histoire, qui a été extrêmement dramatique, c'est qu'elle s'est aussi donnée pour tâche d'observer son neveu qu'elle avait eu à prendre en tutelle pour des raisons de la vie. Sa sœur, qui était la mère de cet enfant, était morte. Et elle s'est mise à l'observer, à écrire ses observations sur ce neveu, qui était un garçon très difficile, qu'on appellerait aujourd'hui psychopathe, qui venait tout le temps lui demander de l'argent, exiger des choses d'elle. Et un jour où elle a refusé de lui donner ses économies, il l'a étranglée. Et donc elle est morte, tuée par son neveu qui avait 18 ans à l'époque et qui avait été, sinon l'un des premiers patients, mais au moins des premiers cas observés par la psychanalyse.
Une fin un peu dramatique pour une des premières...
Alors, une fin dramatique et un début très dramatique pour la psychanalyse d'enfants qui a commencé vraiment dans le bruit et la fureur, si on peut dire, puisqu'il y a eu un procès qui a fait grand bruit à Vienne à l'époque, où on a interrogé est-ce qu'il était légitime d'analyser des enfants ou des adolescents dans ce procès-là. Mais ensuite, tout le mouvement psychanalytique, parce que c'était un peu quand même problématique, a fait silence sur cette histoire. Et ça n'est que relativement récemment, il y a une vingtaine d'années, qu'on a ressorti toute l'histoire d'Hermine von Hugelmuth. On n'en parlait plus.
D'accord.
Et donc, elle donnait des cours à l'Institut viennois, quand même, sur la psychanalyse d'enfants. Et elle a été remplacée dans cette fonction de professeur qui s'adressait et aux analystes que la psychanalyse d'enfants intéressait, mais surtout aux éducateurs et puis aux parents. Puisque déjà, il y avait, dès le début, cette volonté d'éduquer les parents, elle a été remplacée par Anna Freud, la fille
d'accord.
de Freud. Et donc c'est Anna Freud qui a été considérée comme la première psychanalyste d'enfants. Comme toujours, dans toute fondation, hein, il y a une origine qui est un peu
refoulée. Anna Freud est beaucoup plus connue, c'est vrai.
Alors en effet, Anna Freud est tout à fait connue. Et Anna Freud s'est vraiment posé la question de comment peut-on appliquer et cette théorie et cette technique aux enfants. Alors, en effet, on ne pouvait pas demander à des enfants de venir 3 fois par semaine s'allonger sur un divan.
Oui, alors comment procède-t-on donc avec une cure d'enfant ?
Alors, Anna Freud a cherché des moyens d'attacher l'enfant à son psychanalyste, parce que ce qui est important, c'est le transfert. Ce qu'elle dit est très naïf, et on le dirait pas du tout de la même façon aujourd'hui, mais on voit bien que c'est la question. Alors, comment procède-t-on ? Bien évidemment, on ne demande pas à l'enfant de s'allonger. On le reçoit, on lui explique qu'il est là pour parler de ce qui fait problème pour lui, de ses soucis, enfin chacun trouve ses mots, des mots qui s'adaptent au langage de l'enfant en fonction de l'âge qu'il a, bien sûr. On lui propose des moyens d'exprimer ses difficultés. Alors les moyens étant, bien sûr, le moyen roi, d'une certaine façon, c'est la parole. Mais si l'enfant, en fonction de son âge ou en fonction de ses inhibitions, ne peut pas ou ne souhaite pas parler, ou s'il ne parle pas, puisqu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au début, on reçoit des enfants très jeunes, on lui propose d'autres moyens de s'exprimer. En général, on lui propose de dessiner ou de faire d'accord. de la pâte à modeler, et éventuellement de jouer avec des petits objets qui sont là dans le bureau.
Parce qu'aujourd'hui, à partir de quel âge pourriez-vous dire qu'on peut recevoir des enfants ?
À partir de la naissance, et même avant. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça depuis le début. Anna Freud pensait qu'on pouvait recevoir les enfants à partir de 7-8 ans, c'est-à-dire après la crise de l'Oedipe. Mélanie Klein, qui est venue en même temps qu'elle, un petit peu après, elle critiquait beaucoup cela et disait ce qui paraissait très précoce à l'époque, qu'on pouvait recevoir les enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, c'est-à-dire à partir de l'émergence du langage. Et c'est avec un pédiatre comme Winnicott, avec des psychanalystes comme Dolto en France, qu'on a pensé que même un bébé pouvait être réceptif à l'intervention d'un psychanalyste, à certaines conditions, bien évidemment.
Alors, vous avez dit même avant, ce qui veut dire que vous qui faites de la prévention, je crois un peu, vous pensez qu'une mère enceinte, par exemple, peut venir parler et que ça a à voir avec ce qu'on peut appeler psychanalyse d'enfant.
Bien sûr. Alors, est-ce qu'il s'agit de psychanalyse d'enfant ou de psychanalyse d'adulte ? Là, on est vraiment à la limite.
Oui.
Bien sûr. Mais un enfant... est toujours pensée et rêvée, imaginée par ses parents avant même qu'ils ne naissent. À la fois, il est pensé consciemment, il est rêvé consciemment, la maman se dit, il va être comme ci, comme ça, etc., je fais sa chambre de telle façon, mais aussi, il est pensé inconsciemment, il est porté inconsciemment par les parents en fonction de leur propre histoire à chacun et en fonction du croisement de ces deux histoires. Et donc, lorsqu'il ne s'agit pas de demander à toutes les mères enceintes de venir parler, bien évidemment, mais lorsqu'une mère est en difficulté pendant sa grossesse, c'est ce qu'on appelle la dépression du prépartum, c'est-à-dire la dépression de la femme enceinte, existe, hein, elle peut et elle a tout intérêt à venir parler à un psychanalyste ou à quelqu'un qui l'écoutera. Et à ce moment-là, tout ce qu'elle pourra exprimer dans ces moments-là sont autant de choses qui ne pèseront pas ensuite sur le devenir de l'enfant, puisqu'ils ont été, on pourrait dire d'un mot qui n'est pas très joli, épongés, en quelque sorte, que cette angoisse a été épongée par le psychanalyste qui l'a écouté.
Pour vous, vous dites quand même 2 ans et demi, pour qui amène l'enfant, qui décide? Ce sont les parents, je suppose. Comment se font les demandes? Qui vient consulter?
Alors, bien évidemment, les enfants qui viennent consulter d'eux-mêmes sont très rares. Voilà, moi, j'en ai eu quelques expériences, par exemple, travaillant dans une institution qui était un institut pour enfants en grande difficulté. Les enfants voyaient leurs amis, leurs camarades revenir du bureau, revenir dans la classe, manifester des choses. Et puis, parfois, j'ai eu des enfants qui venaient tout seuls taper à la porte. Je ne savais ni leur nom, ni leur âge. Et ils me disaient, voilà, je suis un copain d'un tel, je voudrais te parler. Mais ça, ce sont des cas très rares. Sinon, ce sont en effet les parents qui amènent l'enfant devant soit un malaise que celui-ci ressent et qu'ils ont constaté. Et souvent, les parents sont très attentifs. Aujourd'hui, les parents sont très attentifs à l'enfant. Soit devant une difficulté qui leur a été signalée par l'école, par un médecin. Soit devant une difficulté qu'eux-mêmes ressentent avec cet enfant, c'est-à-dire je ne peux plus le supporter, il ne bobeille pas, je ne sais plus. Souvent les parents disent je ne sais plus comment m'y prendre avec cet enfant-là.
Oui, et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut penser psychanalyse de l'enfant ou psychanalyse du parent? Comment répartir? Comment faites-vous quand quelqu'un dit « je ne peux plus supporter cet enfant ». Est-ce qu'il s'agit de l'enfant? Est-ce qu'il s'agit du parent? Et comment se débrouille-t-on quand on reçoit une famille?
Je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori au départ lorsqu'on reçoit la famille. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce que disent les parents ou chacun des parents quand ils sont séparés, ce qui est fréquemment le cas aujourd'hui. Écouter ce que dit l'enfant et essayer de voir qui est porteur d'une souffrance et qui il vaut mieux aider. Par exemple, moi, quand je reçois des parents avec un enfant, je leur demande toujours qui veut venir parler en premier dans le bureau et de quelle façon. Et ça désarçonne beaucoup les parents. La plupart du temps, et même l'enfant, ils sont très étonnés. Ah, mais c'est vous qui savez. Et là-dessus, bon, je dis quelques mots pour faciliter les choses. Je dis non, mais c'est vraiment comme vous préférez. Et tous les mouvements qui se jouent là sont toujours très intéressants et très symptomatiques, très significatifs. Soit la mère veut parler d'abord, soit l'enfant dit à la mère, vas-y toi d'abord, soit l'enfant très comme ça, hardi, dit ben, je veux parler tout seul. Enfin, tous les cas de figure sont envisageables. Et puis, ensuite, il faut écouter ce qui se joue. Autant je ne pense pas qu'il faille avoir l'a priori que c'est l'enfant qui a un symptôme, donc il n'y a que lui qu'il faut écouter et mettre ses parents à la porte, autant il ne faut pas non plus se donner comme idée ce que peut-être certains psychanalystes ont, que c'est toujours les parents qui ont une difficulté et que l'enfant n'est qu'un prétexte. D'une part, parce que si les parents amènent leur enfant, c'est bien qu'ils ne peuvent pas aller eux-mêmes voir un psychanalyste et qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui est en souffrance chez cet enfant et que c'est cette souffrance qui leur permet à eux de venir parler. Donc ça, c'est une chose importante à prendre en compte et à laisser se développer. C'est l'expérience qui vous apprend après à quel moment on peut éventuellement dire à un parent, à une mère ou à un père, bah, peut-être que vous pourriez aller voir quelqu'un pour vous-même et qu'il ne l'entende pas comme quelque chose qui le blesse narcissiquement trop, qu'il puisse s'en saisir. Et puis, si l'enfant est pris dans les difficultés de ses parents, c'est aussi une difficulté pour lui. C'est-à-dire qu'il a aussi besoin lui-même d'en être soulagé.
D'en être sujet
et de comprendre en quoi il était pris dans les difficultés de ses parents et de prendre la parole pour lui-même. Donc, pour résumer, je pense qu'il y a tout un travail préalable qui est à faire, qui sont comme des sortes d'entretiens préliminaires pour comprendre quelle est la place de chacun dans la difficulté qui nous est amenée, et puis ensuite, éventuellement, ouvrir un champ pour l'enfant lui-même, qui en général s'en saisit et qui a besoin d'un espace de parole qui lui soit propre.
Est-ce que vous pourriez peut-être dire quelques mots des enfants qui ne parlent pas, par exemple, dont nous, on parle beaucoup justement, oui, des enfants qui ne parlent pas.
Alors, c'est souvent un des symptômes pour lesquels ils viennent voir un psychanalyste, en effet, le fait qu'ils ne parlent pas. Il y a beaucoup de modalités, beaucoup de façons de ne pas parler. Ça peut être très différent. La plus grave, si on peut faire une échelle, étant l'enfant qui n'entre pas du tout dans la parole. C'est-à-dire qu'il n'a même pas les signes préliminaires à l'entrée dans la parole et dans le langage. C'est-à-dire la communication d'œil à œil, comme on dit, qui n'a pas l'air d'échanger de regard avec vous. Les babillages, le fait de vous montrer quelque chose, d'échanger un objet. Tout ça qui sont des préliminaires à l'instauration de la parole chez un enfant. Et donc ça, quand on constate ce type de difficulté vers 2 ans, 2 ans et demi, et aujourd'hui les mères, dans quelque niveau social que ce soit, s'en rendent compte, je trouve, et elles disent, moi je vois beaucoup de mères d'un niveau social assez
peu informé,
me dire, celui-là il parle pas. Je dis, mais enfin, à 2 ans, un enfant, ça parle pas toujours. Non, mais il fait pas comme les autres, il dit pas bababa, ou elles amènent des signes où elles ont compris que cet enfant n'entrait pas dans la parole, dans ce processus qui est celui de la parole et de l'échange entre deux humains. Là, c'est quelque chose qui doit nous alarmer beaucoup et qui peut être un des signes vraiment de l'autisme ou d'une psychose. Et donc, il y a une intervention importante à faire pour stimuler cet enfant, pour comprendre pourquoi il en est là et pour l'aider. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un enfant autiste et qu'on ne peut rien faire, mais il y a quelque chose à faire pour le stimuler à la communication avec autrui. Il y a aussi des enfants qui ne parlent pas parce que, comme disent les mères, il est timide. Qu'à la maison, il a la langue bien pendue, il se dispute avec tout le monde et qu'il veut même commander toute la famille, mais qu'à l'extérieur, il se cache derrière sa mère ou il ne parle pas. C'est aussi quelque chose qui est à travailler avec cet enfant-là. Il y a des enfants qui, tout simplement, ne parlent pas parce qu'ils sont un peu trop jeunes, qui viennent pour un autre symptôme, mais qui n'ont pas encore l'âge de parler. Et donc, avec ces enfants-là, il faut d'une part leur proposer d'autres moyens de communication. Celui par excellence avec les enfants, vous le savez bien, c'est le dessin. Ils aiment, oui, beaucoup dessiner, montrer leurs dessins. Et ils expriment beaucoup de choses à travers ces dessins. Ils sont très contents qu'on dise « ah bah tiens, c'est ci » ou qu'on leur pose des questions et qu'on commente les dessins avec eux. Et puis, d'autre part, ce qui est important, c'est de toujours inclure l'enfant, si jeune soit-il, dans le processus de parole que l'on a avec sa mère ou avec ses parents, comme étant lui-même un être dans le langage, c'est-à-dire quelqu'un à qui on parle, à qui on parle et à qui éventuellement on adresse les paroles en lui disant « tu », que la mère dit à son sujet en disant de lui « il » ou « elle », c'est-à-dire en parlant à la troisième personne. « Il a fait ci, il a fait ça ». Alors, c'est très important de lui dire « tu entends ce que dit ta maman de toi ?» Et vous saisissez à ce moment-là le regard de l'enfant, si jeune soit-il, qui se fixe dans le vôtre et qui est très intéressé par ce que vous dites. Et en particulier, ce qu'il est tout à fait essentiel de lui redire en s'adressant à lui, et qui a un effet souvent très spectaculaire sur les enfants, sur les jeunes enfants, c'est de lui dire en vérité, comme disait Françoise Dolto, la vérité de ce qui concerne son origine, ses origines. C'est-à-dire, par exemple, les mères peuvent tout à fait vous dire, devant un enfant de 2-3 ans, son père n'est pas son père, mais il n'en sait rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faut reprendre à l'enfant. Si la mère vous le dit hors de la présence de l'enfant, en disant « c'est un secret que je ne peux pas lui dire », etc., il ne s'agit pas, vous, de façon autoritaire, de violer ce qu'est le secret de la mère. Il s'agit de le travailler. Mais si elle le dit devant lui...
Il s'agit de le travailler, donc vous allez le reprendre avec la maman, vous allez le faire passer à l'enfant d'une manière métaphorique, comment ?
Non, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire à un enfant quelque chose que la mère ne se sent pas, elle,
prête à dire,
capable, et qu'elle ne vous, en fortiori, qu'elle ne vous autorise pas à dire. Donc il faudra avoir des séances avec la maman pour que d'abord elle raconte l'histoire, empreinte de toute l'émotion, la charge émotive que ça a pour elle, pour qu'elle s'en sépare un peu, et qu'on essaie de comprendre pourquoi elle pense ne pas pouvoir le dire à l'enfant. En général, ça débouche sur le fait qu'elles disent « mais oui, vous avez raison, il faut le dire », et soit que, ou que ça vienne tout seul à la maison, que la fois d'après, elle vous dit « ben voilà, j'en ai parlé ». Soit elle y arrive, elle le fait elle-même, soit parfois, c'est pour certaines mères, ou des mères qui sont très seules face à l'enfant, elles disent souvent « mais c'est trop difficile pour moi de le dire, ça me sera plus facile de le faire devant vous, ou de le faire avec vous ». Ou elles nous demandent de le dire à leur place, mais en leur présence. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Très souvent aussi, on est amené à dire à une maman « Mais madame, vous me dites qu'il ne sait pas, mais au fond, il le sait. Parce que voyez ce qu'il m'a dit en séance, ou voyez le dessin qu'il a fait. Ça, ça signifie vraiment qu'il le dise. » Et puis, en général, le fait que la mère vienne et qu'elle consulte un tiers pour poser ces questions-là par rapport à son enfant, ça signifie déjà, d'une certaine façon, que la parole est en circulation. Et donc, ces choses qui apparaissent comme des secrets terribles finissent par se mettre en circulation d'eux-mêmes la plupart du temps.
C'est ça. Donc, il y a la position des secrets. Que faire du secret de famille? Il y a d'autres symptômes de la société. Enfin, ce n'est pas un symptôme de la société, d'ailleurs, les secrets. Mais il y a actuellement, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans les cœurs d'enfants? Est-ce qu'il y a des symptômes nouveaux? On parle souvent de ces nouvelles pathologies ou de ces...
Les symptômes nouveaux chez les enfants eux-mêmes, enfin ceux qu'on met très en avant, sont ce qu'on appelle l'hyperactivité des enfants. Alors beaucoup même de... Alors n'en parlons pas les enseignants. Les enseignants adressent énormément d'enfants dans les services de pédopsychiatrie ou chez les psychanalystes pour hyperactivité. C'est-à-dire que le diagnostic, entre guillemets, serait déjà fait avant même que l'enfant n'arrive à l'école. Les parents eux-mêmes arrive très souvent en disant « il est hyperactif ». « Ah bon, comment vous savez ?»« Ben voilà, j'ai vu une émission à la télévision. » Et ils ont fait leur diagnostic eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien évidemment, ce n'est pas un vrai symptôme sur le plan psychiatrique, l'hyperactivité, mais c'est quand même quelque chose qui englobe un spectre très très large. Ça peut aller de l'enfant turbulent d'autrefois, qui bouge trop en classe, qui est un peu ou l'enfant insolent.
C'est ça, le turbulent est devenu hyperactif.
Le turbulent est devenu hyperactif, absolument. Et puis, ça peut aller jusqu'à des enfants très instables ou une instabilité psychotique et qui, là, demande à être prise en compte. Ça ne recouvre pas une structure qui est la même pour tous. Ceci dit, ce qu'on peut dire qui tiendrait à la société et qui ferait que peut-être il y en a plus encore qu'il faudrait voir les statistiques, enfin qu'il y en aurait plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est d'une part le rythme de vie qu'on fait mener aux enfants. Le rythme de vie dès tout petit et dans les grandes villes, en tout cas, avec les deux parents qui travaillent beaucoup, qui rentrent tard, les mères qui sont à la fois très exigeantes par rapport aux devoirs, par rapport à tout un tas de choses, qui veulent tout faire très bien, très exigeantes par rapport à elles-mêmes aussi, parce qu'elles savent que tout ce qu'elles font, on leur a dit que tout ce qu'elles font avec leur enfant, ça compte pour son développement à lui, donc elles voudraient faire tout bien.
Et c'est puis, ça, on est dans le faire.
Alors on est vraiment dans le faire et à faire beaucoup de choses en très peu de temps. L'enfant, parfois, comme il dit, il est stressé, il y a une trop forte pression sur lui et il doit répondre à ça et il ne le tient pas en place. D'autre part, ça peut être aussi une réponse à quelle place un enfant instable ou, comme on dit, hyper agité, hyper kinétique, c'est un enfant qui peut-être ne sait pas où est sa place, aussi bien dans la famille que dans la maison. Or, aujourd'hui, la place de l'enfant aussi bien dans la famille que dans la société. Et aujourd'hui, la place de l'enfant dans la société, elle a en effet beaucoup changé. Elle est peut-être un peu lourde à porter pour ces enfants-là. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... l'enfant est au cœur de la famille. Et souvent, la famille et même l'insertion sociale des parents se fait autour de l'enfant et à travers l'enfant. Alors qu'autrefois, et c'est ce que Dolto disait beaucoup, l'enfant devait être à la périphérie de la famille. Il devait suivre le rythme de vie de la famille, il avait sa place à côté, et le regard n'était pas toujours centré sur lui, et il n'était pas le seul porteur des espoirs de ses parents.
Il est irremplaçable absolument aujourd'hui, alors qu'autrefois, à la limite, il y a 100 ans ou 150 ans, un enfant mourait, un autre naissait. Les progrès de la médecine ont fait aussi que l'enfant est devenu unique, précieux, irremplaçable.
Il y a l'enfant unique, précieux, irremplaçable, mais je ne dirais pas qu'il valait mieux qu'il y ait de la mortalité infantile.
Il ne faut
pas revenir en arrière.
C'est cette psychanalyse que l'on a vue dans les années 68-70, qui est arrivée avec cette histoire de l'enfant roi.
Ça, c'est ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui à Dolto, puisqu'on fête le centenaire de Dolto. Dolto, encore une fois, a toujours dit qu'il fallait que l'enfant soit en périphérie de la famille. Elle citait comme un exemple, la meilleure place de l'enfant, c'était le bébé dans la pièce centrale de la maison à la campagne, de la ferme, où il y avait plusieurs générations, tout le monde avait quelque chose à faire. Le bébé était là à côté, il dormait dans le bruit de la maison, mais personne n'était centré sur lui. On répondait à ses besoins quand il les exprimait, mais on n'était pas du tout centré sur lui parce qu'on avait autre chose à faire. C'était ça, pour elle, une sorte de famille idéale. Si vous voulez, grâce à elle, grâce à beaucoup d'autres psychanalystes, on a écouté l'enfant et on a dit que l'enfant était un sujet, hein, le cite très tôt. On a écouté l'enfant. Mais le problème est de savoir quoi en faire de cette parole de l'enfant. Une fois qu'on l'écoute, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien sûr qu'il est évident que les adultes doivent tenir leur place, doivent donner à l'enfant ce que Dolto appelait les castrations, c'est-à-dire les interdits de trop de plaisir, hein, pour une certaine chose au moment où la maturité du corps permet de passer à autre chose. Hein, l'interdit de vampiriser la mère quand on peut faire autrement, l'interdit de se faire du mal à soi-même ou de faire du mal à l'entourage quand on peut faire autrement, etc. Alors, peut-être ces choses-là ont été mal comprises, en effet. Moi, je pense aussi qu'il y a quand même autre chose, hein, c'est-à-dire que les parents, les jeunes parents en particulier, n'ont plus vraiment d'idéaux pour eux-mêmes. Je veux dire qu'à une autre génération, les adultes avaient des idéaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient... Et aujourd'hui, on a l'impression que tous ces idéaux se sont effondrés et qu'au fond, le seul bonheur ou le seul projet, plutôt, hein, le seul projet d'avenir, on ne pense plus à changer la société, mais le projet, ce serait de réussir la famille parfaite et de réussir le bonheur dans la famille. Et donc, ce qui soutient cette famille-là, c'est l'enfant et de réaliser cet enfant parfait. Or, ça, c'est vraiment difficile de devenir un enfant parfait. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un enfant parfait? Et surtout, de le devenir quand tous les regards et tous les espoirs sont braqués sur vous. D'autant plus que cet enfant parfait, il est en général porteur de ce que les parents n'ont pas pu réaliser pour eux-mêmes. Hein, ça, ce qui est un schéma classique, c'est-à-dire qu'il doit devenir médecin à la place de son père ou de sa mère, ou avocat, et même plus profondément, hein, de porter tous les espoirs de réussite inconscients des parents.
Alors, dans un autre sujet, ça dure longtemps, une cure d'enfance, et quelle est la durée, quel est le prix, quel est le... dans ces choses très pratiques, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la réalité?
Eh bien, une cure d'enfance, ça dépend. Aujourd'hui, les parents s'adressent. Je ne dirais peut-être pas aux psychanalystes en tant que tels, mais aux psys. Comme ils disent souvent, ils ne savent pas très bien si c'est un psychanalyste, voilà, un psychologue, un pédopsychiatre. Ils ne répugnent pas du tout à voir un pédopsychiatre, alors que moi, quand j'ai commencé à travailler, aller voir un psychiatre pour un enfant, c'était vraiment, si l'enfant était extrêmement malade et quasiment...
C'était les fous,
absolument. C'était reconnaître qu'un enfant était fou, ce qui était très dramatique. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent et qui, même dès le coup de fil, me disent « Ah, vous n'êtes pas est-ce que vous êtes pédopsychiatre ?» Je dis non, je ne suis pas médecin. Ah non, nous on cherche un pédopsychiatre. Alors qui est le spécialiste, considéré comme un spécialiste? Donc les parents s'adressent pour toutes sortes de raisons aux psys en général, pour toutes sortes de questions qui se posent à leurs enfants. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne démarche. On la caricature parfois et on la moque, mais c'est plutôt une bonne démarche que de chercher un tiers à qui s'adresser pour résoudre ces questions. Ça peut être des questions qui se résolvent d'elles-mêmes en un simple entretien ou en deux ou trois entretiens. Parfois, et en particulier avec des jeunes enfants, c'est très rapide, hein, aussi l'efficacité de la psychanalyse. Donc parfois, il suffit d'aller voir quelqu'un deux, trois fois ou une dizaine de fois et le problème va être réglé. Parfois, il faudra un peu plus de temps. Et puis à d'autres fois, si c'est un cas où les symptômes sont déjà inscrits très fortement chez l'enfant, à la fois parce que c'est une chose un peu plus grave, puis que l'enfant est plus âgé et qu'il a son autonomie à la fois de pensée et son autonomie psychique à lui, à ce moment-là, il est nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle une véritable psychothérapie, c'est-à-dire qu'on va voir cet enfant une fois par semaine, et parfois ça peut durer assez longtemps. Vous savez bien que si vous commencez une cure avec un enfant autiste ou un enfant psychotique, c'est pendant quelques années que vous allez être responsable, hein, de soutenir le développement de cet enfant-là. Alors, est-ce que ça coûte cher ? Ça dépend. Si vous allez voir un psychanalyste ou même un psychiatre en privé, ça coûte un certain prix, comme une consultation chez un médecin. Les parents en sont conscients. Et moi, j'ai remarqué, pour avoir travaillé dans une consultation privée qui était dans le 19e arrondissement, où il y avait toutes sortes de parents, enfin de niveaux sociaux très différents, que les parents accordaient vraiment un prix très important au fait de pouvoir parler à quelqu'un pour leur enfant. Et par exemple, disaient, s'il faut venir, on viendra tous les 15 jours ou on viendra une fois par mois, mais je tiens absolument à ce que vous continuiez à voir mon enfant. Ceci dit, une consultation chez un pédopsychiatre peut être prise en charge et remboursée par la Sécurité sociale. C'est aussi pour ça souvent que les parents cherchent à voir un pédopsychiatre.
Mais le pédopsychiatre n'est pas psychanalyste.
Pas forcément. Donc il faut vraiment se renseigner. Et puis aussi, il y a en France de nombreux centres qui sont très très bien, très compétents, qui sont les centres médico-psychopédagogiques qui ont été créés en France après la guerre et qui prennent en charge les enfants qui sont en difficulté, avec toute une palette de consultants qui sont à la fois psychiatres, psychanalystes, psychologues, mais où on a possibilité aussi d'orthophonie, de prise en charge en psychomotricité pour les enfants, et qui sont pour le coup complètement gratuits. Et il y a aussi les CMP. Les CMP sont les centres médico-psychologiques qui dépendent des services de psychiatrie des hôpitaux, qui sont souvent en ville, pas forcément dans l'hôpital lui-même, et qui aussi reçoivent tout à fait gratuitement les enfants et leurs parents. Simplement, si on veut être sûr de voir un psychanalyste, il faut pouvoir se renseigner, soit auprès de gens que l'on connaît, d'autres parents qui ont consulté tel et tel centre, pour savoir si la personne qui vous recevra aura véritablement cette formation de psychanalyste.
Cette formation et ce suivi, parce qu'il me semble que dans certains centres, les centres étant très pleins, gratuits et très pleins, les consultations des psychanalystes sont quand même avec des fréquences.
Alors c'est vrai qu'il y a une grande crise en France en ce moment, et c'est une bonne occasion de le dire, cette émission, pour tout ce qui touche à la psychiatrie, que ce soit la psychiatrie de l'adulte ou la psychiatrie de l'enfant, et que tous ces CMP, que ce soit pour adultes ou pour enfants, encore une fois, sont absolument débordés. À la fois, il y a moins de psychiatres et moins de personnel dans ces services. Et en même temps, il y a une beaucoup plus forte demande de la part du public, ce qui fait que ces centres sont débordés et qu'on a parfois une liste d'attente de plusieurs mois. Alors, ce qui est toujours néfaste, mais avec un enfant, imaginez ce que ça signifie. Si vous recevez un enfant 6 mois après, c'est plus le même enfant parfois, les choses ayant évolué. Et une fois que son tour arrive, vous avez raison, parfois on ne peut pas proposer des consultations toutes les semaines ou aussi fréquemment qu'il faudrait, parce que les centres sont débordés. Ça, c'est un problème politique et social.
Puisque l'on parle de cela, moi je voulais aussi noter l'importance, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du transfert. Parce que ce que je trouve difficile pour recevoir moi aussi des enfants, c'est, mais uniquement en privé d'ailleurs, en libéral, c'est lorsque les parents n'arrivent pas ou ne savent pas, ou que je les ai mal informés moi-même, de l'importance du transfert pour l'enfant, et que les cures sont arrêtées brutalement sans avoir pu même revoir l'enfant. Je trouve que c'est une vraie problématique.
Ça, c'était une des questions qui est récurrente dans les débuts de la psychanalyse d'enfants. Chez les toutes premières psychanalystes, que ce soit Hermine von Nogelmuth, Anna Freud ou Melanie Klein, c'était comment éviter que les parents ne fassent irruption dans la cure de l'enfant. C'était le terme qui était utilisé. Et l'irruption la plus redoutée étant celle dont vous venez de parler, qui était l'interruption de la cure. Moi, il me semble qu'on ne peut pas considérer qu'on partait d'un mauvais pied, d'une certaine façon. Enfin, il fallait vraiment, bien sûr, le temps historique de pouvoir poser ces questions. Mais qu'on partait d'un mauvais pied, parce qu'on ne peut pas considérer les parents uniquement comme des gêneurs. Je crois qu'il faut pouvoir, il faut pouvoir travailler avec eux. Et d'une certaine façon, je pense que vous avez raison. Je crois que tout le travail est à faire dans les débuts, dans ce temps dont je parlais des entretiens préliminaires, et leur expliquer que le transfert, c'est-à-dire, comme disait Françoise Dolto, l'enfant vous est à la bonne, d'une certaine façon, est essentiel et que c'est ce qui soutient le travail que l'on pourra faire avec l'enfant. D'ailleurs, en général, les parents sont plutôt contents que l'enfant ait l'air d'avoir confiance dans cette dame à qui on les amène, ou ce monsieur éventuellement. C'est aussi pour ça qu'il est très important que les parents vous aient vu dans les premiers temps. Et pu non seulement vous voir et vous parler, et surtout sache qu'ils peuvent venir vous parler à tel ou tel moment de la cure. Ça, c'est une chose qui est importante à leur dire. C'est-à-dire que même une fois qu'on prend l'enfant en charge, on leur dit, si vous avez besoin de me parler, vous me le dites, ou on leur dit bonjour, et puis est-ce que vous avez des choses importantes à me dire aujourd'hui, à chaque nouvelle séance, pour que tout ce qui est de l'ordre de leur difficulté avec leur enfant, mais aussi de leur réticence par rapport à ce travail que l'enfant a engagé avec vous, ils puissent l'exprimer là, dans ce lieu. S'ils n'ont pas ce lieu, parce qu'il y a des théories différentes de la psychanalyse d'enfant, et certains psychanalystes reçoivent uniquement l'enfant et éventuellement envoient les parents voir un autre psychanalyste. Mais même si les parents sont eux-mêmes en psychanalyse, c'est à la personne qui s'occupe de leur enfant qu'ils ont besoin et envie de dire un certain nombre de choses, et en particulier exprimer cette rivalité dans laquelle ils sont avec l'enfant. Vous occupez de cet enfant-là et pourquoi vous occupez pas de moi? En gros, c'est quelque chose comme ça.
Donc les parents peuvent toujours intervenir dans la cure.
Moi, je pense que c'est important que la porte soit toujours ouverte, sauf dans certains cas rares, moi je trouve très rares, et qui sont plutôt des cas d'adolescents où l'enfant dit que la seule condition dans laquelle il puisse vous parler, c'est que vous ne voyez jamais vos parents. Et donc c'est quelque chose à travailler avec les parents au départ, et dire si vous voulez que je m'occupe de votre enfant ou de ce jeune, il faudra accepter ça. Et en général, les parents l'acceptent et savent que s'ils ont trop de difficultés, ils peuvent aller parler à quelqu'un d'autre. Je trouve que ce sont des cas très rares.
Est-ce que vous pensez par exemple que les cas d'anorexie font partie de ce que vous venez de dire?
Dans mon expérience, non. Parce que moi, j'ai les jeunes filles anorexiques que j'ai suivies. Au début, elles viennent très hostiles aux parents, mais assez vite, et les parents savent qu'ils vous les envoient comme ça, seuls, avec le chèque dans une enveloppe, mais en disant « je ne veux pas intervenir dans son travail qu'elle fait avec vous ». Mais au bout de quelques temps, moi, j'ai remarqué qu'elles créent toujours soit un incident, soit un prétexte,
de manière à ce qu'on voit les parents.
D'accord. Oui. Et donc, c'est important ce temps préliminaire où elles ont l'impression que c'est leur lieu à elles, mais finalement elles sentent bien que leur difficulté c'est avec la mère en général, même si c'est pas la mère réelle d'aujourd'hui, mais la mère archaïque de quand elles étaient petites. Mais enfin, cette mère qu'elles ont là sous la main, elle s'arrange pour vous l'amener, pour qu'on essaye de faire un peu tiers, enfin, ou de faire circuler quelque chose entre elles deux.
Alors je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes. Est-ce que plus on amène tôt un enfant, plus on a de facilité pour que ça aille mieux après? Enfin, je veux dire...
Oui, plus on amène tôt un enfant qui présente des symptômes, moins ces symptômes sont, comment dire, structurés. Moi, la névrose de l'enfant autour de ces symptômes est structurée. Donc, les choses que l'on voit chez des enfants très petits sont souvent très labiles. Hein, on parle avec les parents, et ça, pas toujours, hein, encore une fois, mais ils sont souvent très labiles, donc il vaut mieux venir tôt. Ceci dit, d'une part, moi il me semble important, hein, qu'on ne peut pas se mettre dans l'illusion qu'on va en quelque sorte éradiquer tous les symptômes psychiques qui sont des symptômes de souffrance, et on ne peut pas éradiquer la souffrance en la traitant dès le début. D'autre part, il y a des symptômes qui ne se déclarent qu'à tel ou tel moment du développement de l'enfant, au moment du franchissement de l'Œdipe, ou au moment de l'école primaire et de l'acquisition des connaissances, l'enfant est en difficulté, au moment des premières véritables relations sociales avec les camarades. Et ces symptômes-là, tant qu'ils ne sont pas déclarés, on ne peut pas les traiter comme ça, in absentia. Et puis aussi, je crois qu'il ne faut pas non plus risquer de culpabiliser les parents en leur disant que tout se joue avant 5 ans, comme ça a été les titres de certaines émissions, de certains ouvrages, et que du coup, ils ont tellement peur d'avoir fait du mal, comme ils disent eux-mêmes. J'ai peur d'avoir fait du mal à mon enfant s'ils n'ont pas pris en charge telle ou telle difficulté ou s'ils ont passé à côté de telle chose. La structuration du psychisme de tout être humain est en perpétuel remaniement, et ce remaniement est toujours possible jusqu'à l'adolescence et même après. Et enfin, il y a aussi des symptômes, et parfois des symptômes extrêmement graves, qui ne se déclarent qu'au moment de la puberté ou de l'adolescence, et qu'on n'aurait pas pu traiter avant. Il y a certaines psychoses, malheureusement, qui émergent au moment de l'adolescence et que même si ces jeunes ont été vus très petits, moi j'ai certaines expériences dans ce sens, ont été vus très petits, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de choses à prévenir parce qu'elles ne se déclaraient pas. Et elles se déclarent qu'avec cette émergence, avec le passage de la puberté, par exemple.
Alors, vous avez employé peut-être quelquefois le mot souffrance. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on ne peut pas préserver les enfants de la souffrance, puisqu'ils grandissent par différents sevrages, et le sevrage, ce sont des moments de souffrance.
Mais bien sûr.
Donc, les parents doivent à ce moment-là pouvoir accepter cette souffrance de l'enfant qui n'est pas pathologique.
Absolument. Par exemple, Lacan, hein, qui est un grand psychanalyste français, quand il commentait, qu'il relisait cette analyse par Freud du petit Hans, dit un des problèmes essentiel auquel cet enfant a affaire, c'est la croissance. Bon, la croissance, quel enfant en est préservé, hein, évidemment, c'est pas sans problème, la croissance, savoir qu'on est plus petit, puis qu'on grandit, qu'on est plus grand qu'un autre, enfin, toutes ces sortes de choses. Et ce que vous dites, en effet, c'est-à-dire que tous les interdits, par exemple, que les parents ont à donner, tous les différents sevrages, les différentes frustrations qu'ils ont à imposer à l'enfant, ah, bien sûr que ça implique de la souffrance et de la révolte. Hein, chez l'enfant, de leur révolte, mais que les parents ont vraiment à accompagner l'enfant.
Ça peut accompagner être des bons l'enfant. Signes.
Françoise Dolto disait à le consoler, hein, même à le consoler. Mmh. Oui, c'est triste, tu ne peux pas.
Je te l'interdis.
Voilà, mais... tu ne peux pas aller sur tel toboggan qui est trop dangereux pour toi, c'est très triste, ça te fait très envie, je te l'interdis, mais tu y arriveras quand tu seras plus grand, je comprends que tu es triste. Mais en effet, accepter cette souffrance de l'enfant qui est un signe, en effet, qu'il franchit une étape et puis qu'il a envie de franchir les suivantes, hein, qu'il aura envie de faire mieux. Alors, c'est difficile pour les parents d'assumer cette place-là. C'est difficile parce que, d'une part, ça leur est difficile de faire souffrir leur enfant. Alors pourquoi ? Parce que c'est leur propre souffrance à eux de quand ils étaient petits, hein, que d'une certaine façon ils auraient voulu rester tout le temps enfant et tout le temps dans le plaisir. Et puis c'est peut-être difficile aussi de les voir, pour eux, d'accepter que leur enfant va grandir. Et puis d'autre part, ce que beaucoup de mères en particulier disent, c'est que ça demande beaucoup, comment elle dit, c'est fatigant de dire non. Ça demande beaucoup d'énergie psychique. Et une mère, en particulier une mère isolée, hein, puisqu'on parle des problèmes de société, qui rend épuisée de son travail, qui a à faire face à tout ce qu'il y a à faire dans la maison, le coucher de l'enfant, etc. Si en plus, dans ces 2 heures où il faut tout faire, il faut tout le temps lui dire non et s'affronter à ce dont vous parliez, cette douleur et cette révolte de l'enfant, c'est trop fatigant. Donc c'est plus facile de dire oui et de céder, comme elles disent. Mais bien sûr qu'après, les conséquences vont être difficiles. Mais sur le moment, c'est plus facile de dire oui. Et donc c'est vrai que l'éducation d'un enfant, hein, puisque là c'est une question d'éducation, ça demande beaucoup d'énergie psychique.
C'est ça. Céder, ça ne aide pas.
Oui.
Alors, moi, j'aurais voulu aussi peut-être que vous parliez de votre unité de Saint-Denis, mais il me semble qu'on n'a peut-être pas le temps.
Oui, eh bien, cette unité de Saint-Denis qui s'appelle l'unité d'accueil mère-enfant et qui a un statut d'hôpital de jour dépendant du service de pédopsychiatrie de Saint-Denis, lequel est lui-même rattaché à un hôpital général. Je dis tout cela pour vous dire que, par rapport aux questions que nous abordions tout à l'heure, c'est tout à fait gratuit. Pour les parents qui viennent là, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. C'est un service qui s'adresse aux mamans et aux papas, lorsqu'ils souhaitent venir, avec leurs enfants de 0 à 3 ans, qui nous sont adressés ou qui parfois viennent d'eux-mêmes pour une difficulté ou une pathologie de la relation précoce au bébé. Alors, c'était dans l'idée, en effet, d'aider les parents dans ce moment-là, dans l'idée d'une prévention d'une éventuelle pathologie ultérieure de l'enfant. Hein, une pathologie qui, parfois, ne s'est pas déclarée, mais dont on pense qu'elle risquerait d'atteindre cet enfant, vu que ses parents, et en particulier sa maman, a beaucoup de mal à s'occuper de lui. Alors, ce mal, c'est quoi ? Ce sont des femmes qui sont très déprimées, et qui sont déprimées après leur accouchement et la naissance de l'enfant, qui sont déprimées du fait d'avoir à s'occuper d'un enfant et à assumer le maternage d'un jeune bébé. Ce sont aussi des mamans qui font parfois ce qu'on appelle des psychoses du postpartum, c'est-à-dire des accès délirants qui interviennent après la naissance d'un enfant, qui sont très mystérieux pour la psychiatrie, mais très difficiles et très dangereux pour l'enfant. Ce sont souvent des femmes elles-mêmes très carencées, très isolées, qui ont beaucoup de mal à se dévouer à un autre d'une certaine façon. Il peut s'agir aussi de femmes ou de parents psychotiques chroniques qui se trouvent aujourd'hui à avoir des enfants et qui sont en difficulté dans le maternage de cet enfant. Voilà, toutes sortes de difficultés que nous prenons en charge en proposant à ces parents à la fois des entretiens psychanalytiques individuels, ce qu'elles appellent ou ce qu'ils appellent la consultation dans le bureau, parce que le bureau est fermé, et à la fois des temps de présence dans ce service où, pendant soit des demi-journées ou des journées entières, ils vont être là, s'occuper somme toute de l'enfant comme ils le font à la maison, c'est-à-dire donner les tétés, les biberons, faire l'échange, les bains, les endormissements s'il y a lieu, toujours entouré d'une équipe composée de puéricultrices, d'infirmières psychiatriques et de psychologues. Alors au début, quand je voulais expliquer à une maman ou à une famille ce qu'ils allaient faire là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Au fond, ils vont venir là pour faire la même chose que ce qu'ils font à la maison. Eux-mêmes comprenaient plus vite que je n'avais le temps d'expliquer. Ils me coupent la parole et me disent, alors on va plus être tout seul.
Voilà. Non.
Et c'est cette idée de cette solitude, de ce face-à-face d'une mère avec un bébé, même si parfois il y a une famille, un mari ou un conjoint, mais d'être seule à être responsable avec le bébé, cette relation duelle à l'enfant qui est pathogène aussi bien pour l'enfant, bien sûr, que pour la mère elle-même. Et le fait qu'il y ait du tiers, déjà ça les soulage.
Est-ce que cela a toujours existé ou c'est vraiment un des maux de la civilisation actuelle?
Cette difficulté Écoutez, on peut penser que quand les familles étaient plus larges, plus grandes, que les grands-mères, les tantes, etc. étaient là, c'était moins difficile pour une maman qui se trouve seule aujourd'hui dans un appartement HLM, par exemple.
Dans une civilisation rurale.
Voilà, on peut penser que c'était mieux dans une civilisation rurale. Nous voyons à Saint-Denis beaucoup de jeunes femmes qui viennent d'Afrique noire et qui disent qu'elles n'ont pas été éduquées. Elles ont vu des bébés quand elles étaient jeunes, mais elles n'ont pas du tout été éduquées, et même profondément éduquées. Hein. C'est-à-dire la mère n'aura pas transmis les capacités à se trouver seule avec un enfant. Un enfant, il appartient au groupe social ou au groupe familial. Donc on peut penser que ça, c'est aussi une difficulté sociale. Mais je crois que pas seulement. Je pense que la dépression du postpartum, qui est la difficulté d'une mère, en fonction de sa structure psychique à elle, à pouvoir d'une certaine façon se décentrer. Pour autrefois, on disait se dévouer ou se sacrifier à l'enfant. C'est plus un mot qui est très à la mode. Mais pour se consacrer quand même, pour consacrer tous ses intérêts psychiques à l'enfant pendant un temps très réduit, des quelques premières semaines après son accouchement, c'est une sorte d'acrobatie psychique, de mutation psychique. Il y a certaines femmes qui, en fonction de leur propre histoire, ont du mal à le faire. Et ça, je pense que ça a dû toujours exister, mais que c'était très masqué. Parce que s'il n'y a pas de raison objective, s'il n'y a pas de difficulté sociale, si le mari est présent, si le bébé est en bonne santé, eh ben on doit être ravi. Hein, il y a une sorte d'idéalisation de la maternité. On doit être ravi d'être la maman de ce beau bébé. Et puis si on n'est pas contente, si on pleure, si on est en difficulté, si on est tout le temps fatiguée, c'est qu'on est une mauvaise mère. Et cette idée de la mauvaise mère était très très prégnante. Nous, quand nous avons créé cette unité il y a 15 ans, c'était encore quelque chose de très prégnant. Et les mères osaient beaucoup moins qu'aujourd'hui le dire. Aujourd'hui, il y a eu quand même quelque chose qui s'est dit, qui s'est développé dans la société et qui font que les mères savent que ça existe et consultent plus facilement. Dans les traités de psychiatrie, les dépressions du postpartum sont appelées les dépressions souriantes. Alors pourquoi souriante? C'est pas parce qu'elle sourit tout le temps. Nous, dès qu'on sont en confiance, on voit bien qu'elle pleure plutôt tout le temps, ces jeunes mamans. Mais c'est parce qu'elles se présentent comme ça, n'osant pas dire qu'elles ne sont pas si ravies que ça d'avoir un bébé. Ou qu'elles n'y arrivent pas. Bien sûr que tout ça après évolue et se rétablit, et que le lien s'instaure et qu'elles comprennent que c'est quelque chose d'important pour elles. Mais d'emblée, c'est pas facile.
Juste une petite question, on parle beaucoup actuellement du déni de grossesse. Est-ce que vous avez affaire dans ce genre de centre à ces femmes-là ou pas?
Parfois, enfin nous les voyons parfois avant l'accouchement, mais souvent après. Parfois ce sont des accouchements catastrophiques qui se sont passés malheureusement souvent dans les toilettes ou dans le bus du SAMU, enfin l'ambulance du SAMU, des choses comme ça. Et ces femmes qui arrivent tout d'un coup ayant déjà accouché avec un bébé à l'hôpital sont des femmes qui soit ont caché, c'est pas tout à fait la même chose, soit ont dénié leur grossesse. Donc nous les voyons dans l'après-coup de cela. Là encore, hein, le déni de grossesse, c'est pas une chose en soi qui recouvrirait la même chose pour toutes les femmes qui l'ont traversée. Hein, ça représente des choses très différentes. Il peut s'agir de femmes psychotiques qui ont tellement peu de conscience ou une conscience tellement particulière de leur propre corps qu'en effet, elles se sont pas aperçues qu'elles étaient enceintes. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi de très très jeunes adolescentes peu structurées, mal entourées, qui ne s'aperçoivent pas qu'elles sont enceintes. Et le fait qu'elles ne reconnaissent pas elles-mêmes leur propre grossesse fait que cette grossesse, en effet, n'est pas manifeste. Ça, c'est une chose très particulière, qui est l'influence du psychisme humain sur le corps, fait que, en effet, cette grossesse n'était pas manifeste.
On pourrait dire donc que cela a à voir ces difficultés avec la transmission. Transmission à partir des ancêtres et transmission de ce qui va être transmis à l'enfant. Il y a eu des ruptures, des difficultés, quelque chose qui, là, dans votre unité mère-enfant, est soigné en quelque sorte.
Ah oui, il y a toujours eu des ruptures de transmission ou des difficultés de transmission. Et nous, notre travail, c'est un peu comme un travail de raccommoder les fils qui sont cassés, mais non pas en mettant un sparadrap ou un pansement dessus, mais en permettant justement que ces femmes-là puissent en parler. Et quand elles viennent, comme elles disent, dans le bureau, parler. Au début, nous étions très très étonnés parce que ce dont elle parle en premier lieu, c'est très rarement l'enfant. On a l'impression qu'elle voudrait le laisser de côté, au moins au début. Et elle parle de quoi ? D'elle-même, de leurs difficultés, de leur fatigue, de leur tristesse, de leurs difficultés avec le père de l'enfant, comme elles disent, qu'il soit présent ou qu'il ait disparu quand elles ont annoncé la grossesse ou au moment de l'accouchement, qui sont les deux moments clés où très souvent les conjoints, où les hommes disparaissent, et de leurs difficultés, de leur chamaillerie, etc. avec lui. Mais il est très 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 présent, toujours dans leur discours. Et puis, de leurs difficultés avec leur propre mère.
C'est ça.
Bien évidemment. Et moi, je dis que notre travail, c'est vraiment d'essayer de démêler au départ ces trois fils, cette pelote qui arrive là tout embrouillée. Et puis, peu à peu, les choses se posent et elles se permettent à ce moment-là de porter un regard sur leur enfant et de commencer à dire « Ah, mais je trouve qu'il dort pas bien » ou « Peut-être qu'il prend pas assez ses biberons » ou ce genre de choses qui sont évidentes pour une mère qui va bien, mais qui pour elle ne l'étaient pas.
Alors, peut-être on peut conclure. Alors, moi, je pensais quand même qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup abordé et qu'on pouvait terminer autour de cela ou en dire quelques mots, que vous pouviez en dire quelques mots, c'est autour des pères. Parce qu'on a beaucoup parlé de la mère, éventuellement de la mauvaise mère, mais je pense à tous ces pères qui se sentent, eux aussi, quelquefois mauvais pères. Enfin, comment...
Alors, j'ai beaucoup parlé des mères, là, puisque vous m'interrogiez sur cette unité mère-enfant, où quand même, ce qui est au cœur de notre travail, sont les il faudrait le développer beaucoup plus, mais ce sont les difficultés du maternage de la mère avec le bébé et de tout ce travail de corps à corps.
Si jamais le père là... Bébé.
Mais le père, bien sûr, de façon plus générale, dans les thérapies d'enfants, il est très important. Alors, d'une part, je trouve, mais nous trouvons, mes collègues aussi trouvent, que les pères sont beaucoup plus présents aujourd'hui dans l'éducation des enfants et donc dans les bureaux des psychanalystes qu'ils ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. Les jeunes pères se sentent très impliqués et moi, quand je reçois une demande de rendez-vous, très spontanément, en général, c'est la maman qui prend le rendez-vous, mais elle me demande un rendez-vous à un moment ou à une heure où le papa puisse se libérer sans que j'ai besoin moi-même de dire qu'il faut que le papa vienne. Ce qui était, par exemple, à l'époque de Dolto, c'était la grande question. Comment convoquer le père ? Faut-il le convoquer par écrit, par l'intermédiaire de la mère, etc. Cette question de convoquer le père, comme on disait à l'époque, ne se pose plus aujourd'hui. Il demande en général à venir. Et ensuite, quand la thérapie se met en place, très souvent, c'est le papa qui accompagne l'enfant. Ceci dit, ça ne veut pas dire que sa place à lui est plus facile. Ils sont beaucoup convoqués et par les mères et par la société ou par le mouvement social à intervenir, je trouve, moi, en substitut de la mère. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes couples qui me disaient « on fait 50-50 ». Et au début, je ne comprenais même pas cette expression. Je ne comprenais pas de quoi il voulait me parler. Et il voulait dire 50-50 pour tous les soins, du ménage, etc. et de l'enfant. Oui. Hein, comme si ça se répartissait en quantité et non pas en différence de place.
Oui. Moi, j'ai connu même des couples parents de jumeaux qui se répartissaient. Il y en a un qui avait tel jumeau et l'autre tel jumeau.
Ah oui, ça c'est encore, peut-être encore plus dramatique, ça n'est pas connu, mais il y a des répartitions comme ça. Ou si, ce que j'ai vu très fréquemment, si la maman, par exemple, a un travail plus rémunérateur que le papa, elle choisit de repartir travailler très vite et le papa prend un congé parental de longue durée et c'est lui qui va s'occuper du bébé. Alors, est-ce que c'est indifférent que ce soit le père ou la mère? Moi, je suis peut-être un peu vieille école, je trouve ça bien qu'un papa s'implique dans la vie d'un bébé, qu'il a beaucoup de choses à faire avec ce bébé, et que pour le bébé, la place du papa, la voix du papa, la façon dont le papa le porte, dont il le joue avec lui, etc., est tout à fait importante, mais qu'il n'a peut-être pas à remplacer la fonction maternelle, pas la mère, mais la fonction maternelle à 50%. Alors, soit certains pères, ils trouvent leur compte par leur structuration psychique à eux, et ils sont dans une telle rivalité vis-à-vis de la mère qui voudrait prendre cette place-là et qu'ils y trouvent leur compte, mais peut-être qu'on va trouver après des complications plus tard. Soit ils sont poussés à ça par leur épouse ou par la maman ou par l'entourage. Et du coup, ils sont parfois en très grande difficulté, hein, parce qu'ils ne savent plus comment y faire avec cet enfant. Où se situer, comment se situer. Et finalement, ce qui est très frappant à voir, c'est que si le papa fait un travail de maman, et ben l'enfant, il réagit avec lui comme avec une maman. Hein. Il a les mêmes types de réactions avec lui. Donc, c'est pour certains hommes, ça peut être très perturbant et très troublant.
C'est donc une sorte de pathologie, d'une symétrie qui serait induite par la société, symétrie homme-femme.
Voilà. Alors, moi, je pense que la place du père, qui peut être assumée par un père, qui peut parfois, dans certains couples homosexuels, ça c'est une grande question, hein, mais être assumée par la compagne de la mère, ou par un autre homme, ou par une tierce personne, n'est pas symétrique de la place de la mère. J'appelle mère, là, la personne qui donne les soins corporels, physiques,
c'est ça, le
maternage même plutôt, à l'enfant.
Voilà.
Et ces questions, elles sont posées aussi bien par les couples hétérosexuels en mots, par ces jeunes parents, où la femme, d'une certaine façon, assume une position que peut-être elle n'avait pas ou pas toujours par le passé, hein, qui est le fait d'aller travailler, d'avoir une carrière brillante, qui exige beaucoup d'elle, de gagner bien sa vie, parfois plus que son mari, ce qui est assez fréquent. C'est-à-dire qu'elle-même, elle assume une fonction qui était autrefois celle du père, hein. Alors, à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière possible, et je ne pense pas, hein, entendez-moi bien, qu'il soit souhaitable que les femmes reviennent à la maison et s'occupent que des bébés.
Il
y a des choses nouvelles, certainement, à trouver, et qui sont vraiment très, très difficiles. Hein. Ce moment, qui est un moment de crise, est souvent difficile à assumer pour les jeunes parents. Et puis, d'autre part, on a aussi des configurations familiales ou conjugales, je ne sais pas comment on peut dire, tout à fait différentes aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels, par exemple, ou qui sont élevés, bien sûr, par des femmes seules, parfois par des hommes seuls, tout ça étant tout à fait particulier.
C'est d'autant plus particulier que nous ne sommes plus dans une civilisation rurale où il y a toute la famille. C'est là que ça devient particulier.
Bien sûr, tout à fait. Moi, je pense que ce sont les enfants qui inventent des solutions d'une certaine façon à ça. Hein, et c'est lourd pour eux, bien sûr, mais que parfois ils inventent des solutions et que nous avons à les écouter, à faire au mieux possible, bien sûr, pour eux, mais aussi à les suivre sans a priori, sans jugement a priori.
Oui, ça pourrait poser des questions, mais c'est peut-être une question à côté, ou une fausse question, ou une question un peu extrême que je vais poser. Ça pourrait avoir ou pas, vous pensez, une conséquence sur les difficultés de sexuation de l'enfant?
Dans ce que j'en ai vu dans mon expérience, parce que j'ai eu pas mal de ces enfants ou adolescents en psychothérapie, en consultation, je ne l'ai pas noté, non.
D'accord.
Mais je pense qu'on ne peut pas faire de quelques cas non plus une généralité. Enfin, c'est une question lourde, importante, qu'il faut réfléchir. Je voudrais juste conclure, parce que je crois qu'il faut conclure, sur quelque chose que disait Françoise Dolto. On lui demandait à maman si elle voulait intervenir précisément à une émission émission de radio sur les enfants qui seraient nés éventuellement par FIV, ce qui était quelque chose de tout à fait moderne et de très rare à son époque. Et elle disait, mais moi je ne peux pas, je n'ai rien à dire, parce que je ne pourrais en dire quelque chose sur le devenir de ces enfants-là que lorsque j'aurai analysé une personne qui est elle-même née par FIV. Or, quand il sera temps d'analyser une personne de cette nature, eh bien moi je serai déjà morte. Donc je ne peux rien vous en dire. Et je trouve que ce qu'elle disait là est une leçon très importante. C'est-à-dire que les psychanalystes ne peuvent pas anticiper les changements sociaux. Ils ne peuvent que les accompagner et essayer de les comprendre.
Très bien. Je vous remercie beaucoup toutes les deux d'être venues pour parler de la psychanalyse de l'enfant. C'est un sujet très vaste. Je pense que... On devra revenir sur ce type de sujet. Donc, c'était en la présence de Claude Boukobza. Merci Claude.
Merci à vous.
Et d'Annie Ardin. Merci beaucoup Annie.
Merci Marion. Au revoir.
Au revoir. Ici, Autre Radio, Autre Culture. À bientôt. Autre Radio, Autre Culture.